France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Pour cet épisode, on a hésité entre plusieurs titres. Et finalement, on a choisi celui du livre d'Aïda Amara, qui témoigne aujourd'hui et s'intitule « Avec ma tête d'arabe ». Elle y raconte en effet l'effet que ça fait d'être une jeune femme arabe en France en 2025, entre violence et résilience. On avait pensé aussi à un autre titre de livre, plus austère mais passionnant, qui s'appelle « La charge raciale » de Douce Dibono. Ce concept, qui n'est pas nouveau, décrit la pression mentale et psychologique vécue par celles et ceux qui sont exposés à diverses formes de stigmatisation raciale et qui doivent s'adapter constamment. Elle décrit ça comme ça, je cite, « Toutes les personnes racisées sont des génies de l'adaptation. Penser à ne pas paraître trop noir, arabe ou asiatique, adopter une manière de parler, de s'habiller, de rire, réfléchir aux musiques choisies en soirée, renoncer à porter des capuches pour éviter la police. Bref, la charge raciale, c'est tout planifié quand on évolue dans des milieux majoritairement blancs et qu'on ne l'est pas. » Fin de citation. Au départ, le terme de charge raciale d'ailleurs renvoyait au défi psychologique des Afro-Américains, consistant à se regarder constamment à travers les yeux d'une société blanche. Et puis l'idée s'est étendue pour essayer d'inclure aussi une forme de racisme intériorisé, de non-dit post-colonial. Tout de suite donc, rien de très théorique ni de conceptuel. Cependant, dans les deux témoignages qui suivent, ce sont plutôt deux récits très concrets de l'effet que ça fait de vivre en France en 2025 avec une tête d'arabe, par Émilie Chaudet.
Je m'appelle Aïda Amara, je suis journaliste de profession et j'ai 36 ans. Le 13 novembre 2015, je suis devant le petit Cambodge avec un groupe d'amis quand les terroristes font éruption dans la rue. À ce moment-là, je cours, j'arrive à me sauver et au fur et à mesure, je me rends compte que je suis seule et je décide de revenir sur les lieux pour chercher mes amis que j'ai perdus pendant ma course. Et c'est là que j'en retrouve deux par terre, grièvement blessés. Là commence le moment où on doit nous-mêmes prodiguer les premiers secours et prendre la mesure des dégâts. Cette nuit-là, elle continue aussi par l'interrogatoire de policiers qui sont sur place. Donc on nous demande aux victimes, en tout cas qui peuvent encore parler, de témoigner pour essayer d'identifier les tireurs. Et au moment où j'essaye de décrire physiquement le terroriste au policier, je lui dis un peu en état de choc, un peu pour pas y aller par quatre chemins, je dis bon, il a une tête d'arabe quoi. Et là le policier me répond, mais vous savez, c'est pas de votre faute. Moi à ce moment-là, ça me prend quand même 2-3 secondes pour me rendre compte qu'en fait, derrière cette remarque bienveillante, il croit que je me sens coupable et responsable des actes d'un autre arabe. Et c'est en fait le début d'un long chemin où en fait je serais à plusieurs reprises associée à mes bourreaux. Et ça commence là, ça commence ce soir-là du 13 novembre avec un policier qui a été plutôt gentil, mais sans le vouloir. Et il y a eu une violence dans les propos qui n'ont pas été maîtrisés, mais voilà, qui me sont arrivés à la figure. La première chose qu'on m'a renvoyée de mon identité, que à ce moment-là j'ai perdu, qu'on est en état de choc, on ne sait plus qui on est, la première chose qu'on m'a renvoyée, c'est le fait d'être une arabe en France. Très vite, les jours d'après, il y a un climat politique et médiatique qui se met en place que je trouve ultra violent. De mémoire, le 17 novembre, il y a François Hollande, le président de la République de l'époque, qui prend la parole et qui parle de la déchéance de nationalité. Et là, franchement, c'est une gifle. Et à un moment, il dit qu'on puisse déchoir de sa nationalité, un binational, même s'il est né français. Et là, je me répète la phrase, même s'il est né français. Moi, je suis française de naissance par deux parents nés français, parce que mes parents sont nés en Algérie avant 1962, donc ils sont nés colonisés, indigènes, mais ils sont nés français. Et en fait, au moment où moi, j'attendais de l'unité nationale, qu'on allait tous se serrer les coudes, faire société, quoi, c'est le moment qu'on choisit pour nous dire, à nous binationaux, vous n'êtes pas des Français comme les autres. On peut vous retirer votre nationalité française. En plus, une identité qu'on nous reproche de ne pas assez incarner. Et le tournant tout de suite, en fait, islamophobe qui est pris en France, très peu de temps après, il y a tout de suite cette injonction qui est faite aux personnes musulmanes de se désolidariser de ce qui s'est passé à Paris et à Saint-Denis. Moi, c'est très compliqué à ce moment-là parce que moi, je dois me désolidariser aussi. Je suis victime et je suis pas la seule en plus victime racisée, hein, loin de là. Donc c'est nous qui devons nous désolidariser, c'est nos familles qui souffrent, qui doivent se désolidariser des actes des terroristes. Donc à qui on parle ? Moi, j'ai évidemment des proches qui ont en plus sont atteints dans leurs croyances, dans ce qu'ils sont, dans leur histoire personnelle aussi. Pour beaucoup d'Algériens, ça rappelle des souvenirs très douloureux, le terrorisme. Donc c'est à ces personnes déjà traumatisées qu'apparemment on demande de se désolidariser. Donc là, encore une fois, gros coup dur, c'est le moins qu'on puisse dire, quoi. Ça m'a évidemment rappelé mes terreurs d'enfant. Moi, quand j'ai très jeune, je farfouille dans les papiers de mon père et que je trouve sa carte d'identité algérienne écrite en arabe, je prends conscience qu'en fait, il est l'un de ces étrangers qu'on peut expulser de toute cette petite musique que j'entends déjà dans les années 90. Dans le JT de 20h que je regardais avec lui le soir pendant qu'on mange, tous les moments en fait où on parle de la remise en question du droit du sol, j'imaginais moi que mon père allait être expulsé, que moi du coup j'allais rester seule en France. Donc là en fait, la télé déjà me renvoie que non, il y a des Français et les autres. Et moi je me souviens que avec mes cousines, on jouait pas à chat, on jouait à Jean-Marie Le Pen. Quand on était Jean-Marie Le Pen, bah les autres devaient courir pour pas être touchés par Jean-Marie Le Pen parce que c'était le grand méchant loup de notre enfance qui nous arrivait par la télé. Donc, petite, j'étais un peu terrifiée par cette figure du raciste, ouais. Après les attentats, moi, à ce moment-là, je suis l'ombre de moi-même, quoi. Je me mets, en fait, aussi dans un cocon et dans une bulle qui fait que l'extérieur n'existe plus vraiment. Des propos qui peuvent me heurter, je les retrouve plus tard quand je reprends le travail. 2 mois après les attentats. Moi, je pouvais pas éteindre ma télé, j'étais dans la télé, quoi. Je me souviens, oui, d'échanges où on reçoit les dépêches AFP, tir dans Paris. Moi, un peu interdite, parce que je suis encore très jeune quand même, je dis aux personnes en charge, qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait encore rien. Je dis, mais qui on invite pour parler de ça ? Donc, fais venir un expert sécurité, un spécialiste du monde arabe. Moi, je ne comprenais pas qu'on fasse venir un spécialiste du monde arabe. C'est quoi le rapport entre monde arabe et tir dans Paris ? Déjà, en tant que victime, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Et en plus, le traitement médiatique, pour moi, a été catastrophique. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, quand on est la seule arabe dans la pièce. Souvent, quand il y avait, par exemple, les banlieues qui étaient évoquées en conférence de rédaction, ou l'islam, le voile, les yeux se tournaient doucement, un peu discrètement, mais pas assez pour que je les voie pas, vers moi. Comme si, en fait, ça allait être moi, la fameuse experte sur ce sujet. Ou aussi, on me disait, mais tu sais, moi aussi, mon grand-père était ouvrier. Du fait que je suis perçue comme arabe, mon père était forcément ouvrier Renault. Ce qui est aussi l'histoire de beaucoup d'immigrés algériens, mais qui n'est pas l'histoire de mon père. Donc on a l'impression de vous connaître avant même de vous connaître. Moi, à ce moment-là, quand j'avais encore un peu l'énergie de répondre et de dire « Mais pourquoi je connaîtrais les banlieues ?» Moi, j'ai grandi à Ménilmontant, dans le 20e arrondissement à Paris. Je peux te parler des quartiers populaires parisiens, je peux te parler de Paris. Mais pourquoi tu m'associes aux banlieues ? J'essayais en fait de les mettre face à leurs bêtises. Et donc, je quitte la télé et là, je sais pas quoi faire. C'est motivé par le besoin de sortir de ce climat que je trouve moins nauséabond. Ouais. Je me rends compte qu'il faut que je retrouve un peu l'amour de mon métier. Et je le retrouve en faisant des ateliers d'écriture journalistique avec des jeunes de 14 à 20 ans à peu près, avec un média notamment, la zone d'expression prioritaire. Je redécouvre un peu le métier de journaliste et le sens un peu que j'avais perdu au contact de ces ados. Et par contre, je retrouve aussi quelque chose qui me désole un peu, évidemment, c'est que je retrouve chez eux beaucoup de cicatrices liées aux discriminations qu'ils ont pu subir alors qu'ils sont évidemment très jeunes. Des discriminations territoriales, raciales, et j'en passe. Et moi, je me souviens de beaucoup d'entre eux qui, au début, me disent « L'écriture, c'est pas pour nous, en fait. Nous, on n'est pas bons à l'école. » Et là, je me dis « C'est quand même terrible. Qu'est-ce qu'on a mis dans la tête de ces enfants pour que si jeunes, ils se disent que écrire, c'est pas pour eux. L'école, c'est pas pour eux. Le truc le plus insidieux quand même que ce système a réussi à mettre en place, c'est à nous persuader qu'on n'est pas assez bien, que ça, ce serait pas pour nous, on n'est pas censé se comporter comme ça parce que nos parents viennent de tel pays, etc. Pour mon père, ce qui était important, c'est que je devienne une femme libre et que, voilà, il m'a toujours encouragée à lire. La culture et l'école, surtout, c'était extrêmement important. Il était intraitable sur le sujet parce que pour lui, c'était des armes. Moi, quand je dis à mon père, voilà, là, j'ai subi une micro-agression, comme on dit maintenant, raciste, le premier truc qu'il me dit, c'est « Qu'est-ce que t'as répondu ?» Il me fait pas un câlin, il me dit pas « Ça va aller », c'est « On se sert de la culture comme d'une arme ». Par exemple, là, j'étais à l'entrée d'un ministère, encore une fois dans le cadre de mon travail, et on doit donner nos cartes de presse à l'entrée. Le monsieur à l'entrée... qui commence comme ça à avoir un petit sourire mièvre en regardant ma carte de presse. Et donc, en la regardant, donc en ayant mon prénom sous le nez quand même, il commence à me dire « Alors, oui, Aïcha, Aïcha. » Et donc là, je lui dis « Bah, en fait, c'est Aïda, c'est comme l'opéra de Verdi. » Et là, en fait, à ce moment-là, il y a toujours une bascule. Donc là, il faut très vite qu'il se repositionne et qu'il me dise « Ah mais bien sûr, Aïda, l'opéra de Verdi !» Moi, à ce moment-là, j'ai compris qui j'avais en face de moi. La porte est fermée, quoi. Moi, ce que je dénonce, c'est évidemment les assignations. D'où qu'elles viennent. Je sais pas si ça m'a abîmée. Je pense que ça m'a fatiguée, un peu comme un arbre chahuté par la tempête. Il faut que je m'accroche à quelque chose et je m'accroche à mes parents, à mes racines, quoi. Je me tourne vers l'histoire familiale. Et ça commence par l'enfance de mon père pendant la guerre d'indépendance en Algérie. Donc mon père, lui, il a grandi dans un camp de regroupement. Un camp de regroupement, c'est, pour être clair, c'est l'armée française qui rapatrie plusieurs villages dans un village. Le village est entouré de barbelés, des hommes armés. Si vous sortez sans autorisation, vous êtes mort. Et c'est aussi des exécutions sommaires sur la place du village, assez régulièrement. Donc je me rends compte de ça et j'ai encore besoin de remonter plus loin et d'aller chercher l'histoire de ma grand-mère, donc c'est, qui est la femme qui a élevé mon père. Mon père a perdu son père très jeune, qui a été tabassé à mort par donc des harkis et l'armée française. Donc là, en fait, en récoltant la parole de mon père, je me rends compte que je suis pas la première de ma famille à être victime de la violence armée, quoi. Je me disais, voilà, mon père aussi, il a vécu ça, ma grand-mère aussi, et ils ont pu vivre leur vie, et surtout ça leur a pas enlevé, en fait, leur capacité à aimer, leur humour, leur beauté, quoi. Sans, évidemment, romantiser le traumatisme, hein. Le traumatisme, il est bien là. Et j'ai eu besoin de retisser des liens forts avec l'Algérie pour mieux, en fait, m'ancrer en France. C'est un peu comme une nouvelle armure, parce que, en fait, je pense que quand on connaît son histoire, on est beaucoup moins sensible au discours raciste.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Nour, j'ai 50 ans, je vis en région parisienne et je dirige une petite entreprise. J'ai grandi donc en banlieue parisienne, dans le 93, dans un milieu modeste mais pas pauvre. On m'a tout de suite dit petite que en fait j'avais toutes mes chances, que le travail permettait d'accéder aux études et en fait aussi dans une vision du monde où s'il nous arrive quelque chose, c'est pas parce qu'on est maghrébin, c'est juste qu'on a été insolent ou qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ça permet, quand on est enfant, d'être protégé et d'essayer de se voir comme un parmi tant d'autres, et ce qui était possible aussi dans l'environnement scolaire où j'étais. Ça a été très difficile au moment où j'ai commencé à rentrer dans les études supérieures. Là, j'étais plus dans le milieu social dans lequel j'avais grandi. Tout d'un coup, en arrivant en prépa, j'ai été confrontée à des trucs lunaires de la part des camarades de classe, quoi. Du genre, j'étais bonne en français, je lisais beaucoup et j'avais eu une meilleure note que toute la classe. Et un garçon de ma classe m'avait dit « Mais je comprends pas, t'es même pas français, je comprends pas que tu puisses avoir une meilleure note que moi. » Et la première fois où j'ai eu des difficultés avec des profs, ça a été un petit peu en prépa, mais surtout en école de commerce. J'avais un prof de marketing qui m'a vraiment saqué pendant toute l'année, c'était ma dernière année d'études. Et puis j'avais vraiment des mauvaises notes, en plus sur des exercices où je savais que j'étais bonne et où je savais que j'étais entraînée. Et puis je lui ai fait remarquer quelques fois, et le dernier examen qui était anonyme, j'ai eu la meilleure note de la classe. Et donc je suis allée le voir et je lui ai dit « Enfin, je suis notée pour ce que je vaux ». Je lui ai dit « Moi je savais que je ne valais pas ces notes et ça me fait plaisir d'en avoir la confirmation quand enfin c'est anonyme et juste ». Il m'a répondu « Non, vous valez ce que je vous notais ». Je lui ai dit « En fait non ». Je pense qu'en plus, il pensait certainement pas qu'il avait cette injustice dans sa notation. En fait, les gens sont pas clairs sur leur biais, leur racisme, leur façon de faire. En fait, je ressentais les choses, mais j'étais pas forcément capable de les nommer. Dans ma tête, il y avait des choses qui étaient très, très évidentes. Par exemple, j'arrive dans un magasin et on me suit. Ou au supermarché, la caissière va faire une remarque sur la dame qui est avant et qui est maghrébine en disant « il se croit vraiment tout permis ». Donc ça, voilà, c'était les gros trucs où ça me paraît évident. Et puis, il y a les trucs qui sont entre les deux, et puis on ne sait pas trop si c'est nous qui avons provoqué ça. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais responsable de tout ça. Qu'en fait, si je rentrais quelque part et qu'il y avait une hostilité contre moi, bah, c'était parce que moi, j'avais pas le droit d'être là, ou j'étais pas assez bien habillée pour être là, ou comme j'étais pas légitime, et que finalement, peut-être que j'étais pas souriante quand je suis rentrée, ou que j'ai l'air arrogante. Et en fait, j'ai développé beaucoup de réparties parce que j'ai dû me défendre. Des choses violentes, je sais pas, un jeune homme qui vient me draguer et qui me dit « moi, je suis jamais sortie avec une arabe, ça me dirait bien d'essayer ». Ça m'est arrivé plein de fois. Et la première fois que ça m'est arrivé, je pense que j'étais au lycée et je lui avais répondu « moi, je suis pas une agence de voyage ». C'était d'autant plus blessant qu'en fait, ça me ramenait à un « youyou », alors qu'en fait, moi, je suis née en France et que au lycée, j'écoutais Brel et Brassens, que j'ai regardé la télé comme tout le monde et que moi, j'étais pas sur Canal Tunisie pendant ce temps-là, quoi. Je peux avoir tous les outils du monde, la capacité à m'exprimer, à exprimer mes idées, à être éloquente, à humilier, à faire rire. Je peux vraiment faire ce que je veux si je suis pas sidérée. Mais en fait, je dois avoir cette vigilance de devoir réfléchir à où on va. Est-ce que là, je vais dans un environnement qui est bienveillant ? Il y a peu de temps, je fais une petite après-midi de shopping avec un ami. On rentre dans une bijouterie et il y a... voilà, une vendeuse qui est là ce jour-là, qui est avec deux clients, elle regarde pas vraiment ce qu'on fait. On est en train de regarder des bijoux. Et puis moi, je suis très précautionneuse dans la façon dont je prends et je repose parce que je sais que potentiellement, je suis observée en tant que ressemblant à ce à quoi je ressemble. C'est-à-dire racisée d'origine maghrébine. Et donc, on essaye des bracelets. On repose le 10 bracelets. On sort. Et la dame qui s'était pas tellement occupée de nous, la vendeuse, sort dans la rue, nous court après et nous demande où est le bracelet. Donc là, on re-rentre avec elle pour lui montrer où est le bracelet, parce qu'il y avait trois bracelets qui étaient sur l'étagère et on a remis exactement au même endroit. Sur le coup, on dit rien, parce qu'on a l'habitude de rien dire dans ce genre de situation, parce que mon ami est d'origine vietnamienne, que lui, il est aussi victime de racisme très 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 souvent. Et donc, je lui dis « qu'est-ce qu'on fait ?» Et il me dit « rien ». Je lui dis « non, mais c'est inadmissible. En fait, je connais la propriétaire, je vais aller la voir et je vais lui en parler. » Et c'est ce que j'ai fait. Elle m'a répondu qu'elle était désolée. Après, pour moi, elle a bien réagi. Et je me suis dit, toutes ces fois où on se dit « c'est pas grave », en fait, si c'est grave, mais ça peut être dit avec calme, ça peut être dit avec bienveillance. Voilà. Dans le milieu professionnel, j'ai été dans plein de grosses boîtes américaines, que j'étais dans des fonctions commerciales qui étaient bien payées, qui étaient bien vues, parce que ça demandait beaucoup d'expertise. Donc en fait, j'étais toujours un peu et la star, et parfois la caution diversité dans certaines grosses entreprises américaines, où clairement je savais qu'on leur avait dit que là, il fallait un peu colorer. Donc j'étais vraiment consciente en fait, du racisme en entreprise. Et puis, j'ai changé d'entreprise assez régulièrement parce que dès que je sentais qu'il y avait un plafond de verre et que j'évoluerais pas vers les fonctions que je voulais occuper, je me disais, tant pis, je vais ailleurs pour le faire. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que l'environnement était vraiment hostile et que il m'en coûtait de ma santé mentale, sans compter que, autour, tous les gens m'appelaient dans toutes les boîtes où j'ai été par le prénom maghrébin le plus proche. Donc, j'ai été Wafa, Karima, et... J'avais par exemple un collègue dans une des équipes où j'étais qui faisait des accents tous les jours. Donc l'open space est grand, hein, il y a vraiment une cinquantaine de personnes. Et puis pour moi, pour rire avec moi, pensait-il, j'avais le droit des jours à un accent maghrébin et puis de temps en temps un accent de banlieue. C'était soit wesh, soit machin. Moi, parfois c'était l'humour où voilà, je me disais allez, on en rigole un petit peu. Parfois c'était la sidération, parfois c'est la colère. Et puis finalement, moi j'essayais de pas être en colère dans le monde de l'entreprise, de garder mon calme, que ce soit ma force, et ça l'a été. Hein. Mais en fait, c'est fatigant, c'est hyper fatigant. Et cette parole décomplexée, elle a un coût pour ceux qui doivent l'écouter. Comment est-ce qu'on réagit quand on est à un événement professionnel et puis que ça part sur « non mais ça va, il y a vraiment trop d'arabes, on n'est pas là pour accueillir toute la misère du monde ». Est-ce que on répond? Moi, j'ai pas intérêt dans un événement professionnel à répondre. Je suis pas là pour ça et je suis pas là pour. Est-ce que on ne va plus à ces événements? La mort de Naël, ça a été un événement hyper déprimant. Et les discussions que les gens ont pu avoir à ce moment-là, pareil, moi, je m'attendais pas du tout à ce type de réaction de la part de maman d'adolescent qui ont pu dire devant moi « Oui, mais bon, c'était un délinquant. » Et je pense qu'il y a eu un cap pour moi dans l'horreur de ce que je devais entendre. C'est vraiment le moment où on se dit que finalement, la vie d'un jeune arabe, elle n'a pas de valeur et qu'il peut mourir. Parce que bah, il n'y avait pas à être là, et puis qu'on en a marre de leurs conneries, et patati patata. Et c'est d'une violence, en fait. C'est comme si on me disait au visage, mais toi, t'es une citoyenne de seconde zone, hein, si tu fais n'importe quoi, on t'accepte là, parce que tu te tiens à carreau, mais si tu dérapes, on te tire dessus, quoi, sans aucun problème. J'ai réalisé que beaucoup de gens qui me mettaient en avant dans des réseaux professionnels, et arrêtaient pas de me présenter à du monde, et de me dire à quel point j'étais géniale, c'était les mêmes qui prononçait ces choses horribles, et qu'en fait, le racisme, il s'exprimait aussi dans l'intérêt qu'on montrait à être la bonne arabe qu'on emmène. Même le fait que je parle cette langue, j'en parle rarement, parce que je sais que ça donne un peu ce « Oh, mais c'est bien !» Et que c'est... Pour moi, ça a été une période hyper difficile, toute cette période là autour de la mort de Naël et des élections législatives. Ça m'a beaucoup attristée. J'ai travaillé quand même, hein. J'ai besoin de travailler de toute façon. Mais ça a été hyper difficile parce que finalement, je me suis repliée sur moi-même. J'ai fréquenté que très peu de gens. Dans ma vie d'adulte, à chaque fois que j'ai vu un psy, c'était souvent plutôt de l'épuisement, une dépression, un burn-out, un truc... que je connectais pas du tout au racisme en fait en général. Et je suis même tombée sur des psys un peu beaucoup maltraitants, dont un en fait qui se couvert d'être cool et d'être un peu différent. Et quand il s'adressait à moi dans la salle d'attente, il m'appelait en me disant « Hé, la petite bougnoule, vous venez ?» Et ce psy, il a vraiment réduit à ce moment-là ma confiance en moi dans ce que je disais. Il a eu une façon de me dire que je me posais en victime. Il disait toujours « c'est pas du racisme ». Que c'était moi qui était trop masculine, trop castratrice. Et en réalité, c'est devenu de plus en plus toxique et j'ai arrêté après, quand j'ai repris une psy, j'ai voulu que ce soit quelqu'un qui soit racisé, qui soit d'origine maghrébine. Parce que pour moi, c'était important de ne pas avoir à expliquer et rejustifier tout ça. J'ai envie de sortir du silence sans avoir peur qu'on me dise « Ah là là, mais encore de la victimisation, mais quelle excité celle-là » parce qu'en fait, mon propos, il est légitime et ce que je raconte, c'est vrai. et puis, c'est pas moi, c'est pas mon récit personnel, c'est le récit de plein de gens. On est des milliers et des millions à vivre ce que je vis. On gagne rien, en fait, à se silencier entre nous, quelque part.
C'était Avec ma tête d'arabe, un reportage d'Émilie Chaudet réalisé par Éric Lancien. Merci à Aïda Amara, à Nour, à Fatma Bouvet de la Maison Neuve, à Tammy Ayouch, à Rakika, à Abdou Diko et à Françoise L'Aigle. C'est Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Mina Morel, notre stagiaire.